Alors, d'abord, je suis content d'être là parce que c'est la première fois que je viens donc, dans ce lycée. Alors, de temps en temps, je vais en face pour être président du jeudi BAC, mais c'est vraiment la première fois que je ne suis pas auvergnat. Donc, je ne connaissais pas du tout ce lycée. Et donc, en fait, dès que j'ai été contacté pour faire ce petit séminaire sur les manipulations d'avis, j'ai accepté tout de suite. Pour deux raisons, parce que la première, c'est que j'en fais. Et la deuxième, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qu'on met derrière le mot manipulation d'avis? Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film remarquable qui s'appelle Independence Day, une remarquable intelligence, mais à un moment donné, on voit derrière la grille un savant, complètement fou et qui chevauche de tous les côtés, et je me suis dit, ça, c'est ce que les gens pensent lorsqu'ils se disent, on va travailler, ou il va parler de manipulation de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il va parler de Mr. Hyde et de Dr. Jekyll, et peut-être que lui-même en est un. Du coup, lorsque j'ai préparé ce topo, j'allais sur le Petit Larousse illustré de base, 2003, et j'ai regardé manipulation. Alors, manipulation, il y avait magouille électorale, voilà. Il y avait l'art de manipuler, ce qui avançait quand même pas énormément à l'époque. Et puis j'ai trouvé spécialité du prestidigitateur qui, par sa seule dextérité, fait apparaître et disparaître des objets. Alors, je ne vais pas vous faire un numéro de magie aujourd'hui, mais lorsqu'on regarde le mot vie maintenant, on s'aperçoit que la définition même de vie, c'est l'ensemble des phénomènes communs aux êtres organisés, mais également l'ensemble des moyens matériels nécessaires pour assurer l'existence de quelqu'un. Alors moi, je me suis dit, manipulation de la vie, c'est sans doute faire apparaître et disparaître des vies. Alors oui, je me reconnais là-dedans, faire apparaître et disparaître des objets, en l'occurrence la vie, voire faire apparaître de nouvelles vies, pas encore en faire disparaître. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on fait ça? Pour quelle raison est-ce que je fais ça? La première raison, c'est pour comprendre. Tout simplement pour comprendre, il n'y a pas de but. Lorsqu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'une protéine fonctionne comme ça, c'est pas simplement pour développer, mettre un brevet derrière. C'est l'idée de comprendre, point. Mais il y a aussi l'idée d'améliorer. D'améliorer quoi? D'améliorer la vie. Et puis bien sûr, on pense à certaines pathologies humaines, améliorer et donc soigner certaines maladies. Et aujourd'hui, je vais rapidement vous montrer que tous les êtres vivants peuvent être manipulés, que ce soit la bactérie, que ce soit les plantes, que ce soit la drosophile, je ne parlerai pas d'exemple du poisson zèbre, et évidemment que ce soit la souris, puisque moi je suis prof de bio à la fac, je fais de la recherche, et je fais de la recherche sur la physiologie de la souris dans l'idée de comprendre certaines maladies humaines. Alors, et chez les E. coli d'abord, vous savez tout ce qui est chez les E. coli, c'est une bactérie, et on voit récemment, on a vu que chez les E. coli pouvait donner des diarrhées phénoménales, notamment lorsque la viande était avariée. Bon. Mais regardez cette photo, ces deux petites filles, 18 cm les séparent, 18 mois aussi les séparent. Cette fille est l'aînée des deux sœurs. C'est-à-dire qu'il y a un an et demi, celle-ci est plus âgée de un an et demi que celle-là. On sait pourquoi. C'est un nanisme. C'est-à-dire que l'hormone de croissance n'est plus synthétisée. L'hormone de croissance est une hormone qui se trouve, qui est libérée par l'hypophyse, une glande au niveau du cerveau. Eh bien, dans les années 90, le gène de l'hormone de croissance a été identifié. Et voyez ici une souris, et voici ici une autre souris. La même, c'est sa sœur. La seule différence, c'est que cette souris a été injectée avec le gène codant l'hormone de croissance humaine. Ça, c'est la paille normale, et ici, c'est la souris qui a été traitée de façon endogène par l'hormone de croissance humaine. Ça correspond à la version inversée. Eh bien, nous sommes en plein procès de l'hormone de croissance, et ce qui me fait le plus de peine, c'est que le professeur Job a été dans un des rapporteurs de ma thèse de science, il y a quelques années, et il se trouve confronté à quel problème? Ben, il se trouve confronté à un problème d'extraction, de purification, c'est très compliqué. Mais le seul moyen de traiter ces enfants, de les faire grandir, c'était de prendre des hypophyses humaines, de les broyer et d'extraire. Il y a eu des malversations derrière, je ne rentrerai pas dans les détails. Maintenant, on peut traiter ces enfants. Pourquoi? Eh bien parce que le gène de l'hormone de l'hormone de croissance, pardon, a été insérée dans la bactérie et que Escherichia coli se comporte maintenant comme une usine. Et vous avez des containers faisant des milliers de litres où toutes les boîtes pharmaceutiques américaines synthétisent de l'hormone de croissance. En France, on a la chance que l'hormone de croissance est pris entièrement en charge par la sécurité sociale. Mais maintenant, cet enfant, probablement, a été traité, a rattrapé, voire dépassé sa sœur. Et vous voyez que, à partir d'une bactérie, eh bien, oui, on a pu transformer la bactérie pour traiter une pathologie qui est le nanisme hypophysaire, mais je pourrais aussi prendre l'exemple du diabète de type 1, l'insuffisance en insuline. Avant, on prenait de l'insuline de porc. L'insuline de porc fonctionnait un temps, et puis les patients développaient une résistance parce qu'il y avait des anticorps qui se mettaient en place. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que, eh bien, le gène de l'insuline humaine a été cloné, inséré dans Escherichia coli, et que maintenant, vous avez quelque chose qui est typiquement humain, purifié, et en principe, complètement safe. Et ça, ça n'a pas de prix. Deuxième exemple, cette fois-ci, les plantes. Alors, Arabidopsis thaliana, c'est une petite plante, cousine lointaine du chou. Et il se trouve qu'Arabidopsis, c'est la rabette des prés, c'est l'outil favori des généticiens. Pour quelle raison? C'est parce qu'on connaît parfaitement ces chromosomes. Il y a 4 chromosomes d'Arabidopsis thaliana. Eh bien, voici ici une plante transgénique. Alors, ça fait des feuilles violettes, peu importe. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez que le violet se trouve dans toutes les feuilles, et on dit qu'il y a une expression stable. Voici une autre plante, où il y a une inactivation du gène de façon stochastique, c'est-à-dire totalement aléatoire. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de travailler, de faire des plantes de bleu, pour, en fait, altérer l'expression d'un chromosome? Eh bien, l'intérêt est le suivant, c'est que, par cet outil simple, puisqu'on connaît parfaitement sa génétique, on connaît tout le séquence, on a séquencé entièrement le génome d'Arabidopsis thaliana, eh bien, vous pouvez travailler sur les mécanismes induisant les inactivations chromosomiques chez l'homme. Et il est là le problème. Et à partir de là, eh bien, on a des modèles simples pour étudier des cas de stérilité. Pourquoi est-ce que, dans certaines pathologies, vous avez une non-disjonction des chromosomes au moment de la méiose, et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gamète mâle, ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de gamète femelle, pourquoi est-ce qu'il y a une stérilité? C'est un des moyens d'étude à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que dans certains cas, certains chromosomes se dérèglent et entraînent un développement de cancer? Eh bien, ces études sont réalisées sur la plante parce que la plante est capable de subir des modifications que les cellules humaines en culture ne pourraient pas subir. À chaque fois, j'ai une pensée pour les modifications du plan de tabac. Une pathologie qui est terrible, c'est la mucoviscidose. Alors, vous savez que la mucoviscidose, c'est lié à une anomalie du canal, et donc vous avez les bronches qui sont complètement prises, donc il faut du clapping, et ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails. Mais un des désordres aussi, c'est qu'il y a une anomalie dans la digestion. Pourquoi? Parce que vous avez les enzymes du pancréas qui ne sont plus libérées, et donc il y a des défauts de digestion. Sans enzymes, évidemment, pancréatiques, vous ne pouvez pas digérer le bol alimentaire. Et il y a quelques années, il y avait une start-up clermontoise qui avait réussi enfin à rendre transgéniques des plantes de tabac. Pourquoi des plantes de tabac? Non pas pour fumer le plant de tabac et pour que les hormones ou les enzymes passent par la fumée, mais parce que le tabac, c'est une plante qui a de grandes feuilles. Et donc, il est très facile d'extraire les protéines. Et c'était un des moyens pour produire cette lipase pancréatique déficiente chez les patients ayant une mucoviscidose. Et donc, améliorer leur santé, améliorer leur bien-être, améliorer leur digestion. Et de façon que je qualifie totalement stupide, certaines personnes sont venues en pleine nuit et sous prétexte que c'était des plantes transgéniques, ont tout arraché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas surveiller ce qui se passe dans les plantes transgéniques. Mais à mon sens, entre prendre des faux et tout casser, et se mettre autour d'une table et réfléchir et se dire est-ce que peut-être il n'y aurait pas autre chose à faire, il y a peut-être un pas à ne pas franchir. D'autant plus que, vous savez très bien ce que font les multinationales, vous cassez quelque part, ils prennent leur plan, ils vont dans des endroits, dans des pays, où ils sont moins regardants. Et là, ils font vraiment ce qu'ils veulent pour le coup. Donc, avant d'agir, essayez de connecter doucement les neurones. si je peux me permettre. La mouche maintenant. Alors, Drosophila melanogaster. C'est la mouche du vinaigre. Ou si jamais vous laissez des fruits pourrir, vous voyez une toute petite mouche qui passe entre les godets. Alors, je ne suis pas drosophiliste, mais dans l'unité, j'ai des collègues qui travaillent sur la drosophile, qui étudient le développement de l'ovaire, qui étudient le vieillissement, qui étudient différentes pathologies humaines en s'intéressant à la mouche. Eh bien, voyez ici, c'est un cerveau de mouche. Voilà, cerveau, la moitié d'un cerveau de mouche, qui a été coloré par l'actine. Alors, vous savez que l'actine, c'est une protéine. Vous imaginez une tente de cirque. Hein, si vous n'avez pas le cytosquelette à l'intérieur, vous avez la tente qui s'écroule complètement. Et l'actine, c'est vraiment la protéine qui va faire que la cellule va avoir une forme particulière. La pathologie humaine, c'est la maladie d'Alzheimer. Je ne comprends pas tout exactement comment se développe cette maladie, mais on sait que dans la maladie d'Alzheimer, il y a l'accumulation anormale d'une protéine qui s'appelle la protéine Tau, peu importe son nom. Eh bien, des Américains ont eu l'idée de humaniser cette mouche et de faire une expression ciblée de la protéine Tau humaine dans le cerveau de melanogaster. Qu'ont-ils observé? Eh bien, ils ont observé une accumulation anormale d'actine, c'est-à-dire, ils ont observé le phénotype que l'on observe dans la maladie d'Alzheimer chez l'homme avec l'apparition de ce qu'on appelle les cordes Hirano, c'est-à-dire ces cellules. Ah, pas compris la plaisanterie, vous faites quelque chose, désolé. Bon, ces corps qui, de toute façon, vont entraîner l'apoptose des cellules, donc la mort des cellules. Il est bien clair que la drosophile, c'est pas l'homme, c'est pas une souris, c'est pas un mammifère, mais en tout cas, vu le temps de développement de la souris, il est facile, ou en tout cas, il est plus facile de comprendre comment une dégénérescence peut s'effectuer, justement, dans ce cerveau de mouche. La souris maintenant. Encore quelques exemples, je vous parlerai de ce que l'on fait nous au saison. Ah, cette photo est très jolie parce que qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une souris qui se trouve sur un bain de glace. En fait, ce n'est pas de la glace. C'est de la... Non, ce n'est pas du sel, c'est de la carboglace. Alors quelle est la différence entre la glace et la carboglace? La glace est à 0 degré. La carboglace est à moins 40 degrés. Je vous déconseille de prendre de la carboglace à main nue. Ce qui va se passer, si vous allez la lâcher tout de suite, parce que vous allez sentir une douleur intense. C'est du CO2 hein, qui a été liquéfié puis solidifié. Vous voyez cette souris qui est tranquillement installée sur son pain de carboglace, qui ne souffre d'aucune douleur. En fait, c'est une souris transgénique. Et cette souris présente des anomalies au niveau de certains canaux. Pourquoi est-ce que cette souris a été réalisée? Pour essayer de comprendre comment est-ce que la douleur se transmettait. Et une fois que le canal est identifié, eh bien, vous pourrez, dans un avenir plus ou moins proche, développer une molécule qui va venir bloquer le canal et ainsi diminuer la douleur. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'heure actuelle, les produits qui sont utilisés, que ce soit l'ibuprofène, que ce soit le doliprane, que ce soit l'aspirine, tout ça, c'est des molécules qui ont été identifiées dans les années 1850. Et que depuis, il n'y a plus aucune autre molécule qui a été mise en évidence et aucune autre molécule développée. On sait qu'il va y avoir des intolérances à ces molécules et des effets secondaires. Voilà pourquoi il est intéressant de développer de nouvelles molécules. Vous allez me dire, l'armée peut aussi s'en servir, c'est vrai, et rendre des hommes invulnérables, ainsi de suite. En tout cas, la douleur. Et oui, c'est comme la langue des hommes, hein. Des fois ça vient, des fois c'est pas bien. Une autre souris transgénique. Ça, c'est une souris qui exprime une protéine qui s'appelle la GFP, la Green Fluorescent Protein. C'est une protéine qui a été tirée d'une algue marine qui fluoresce dans le verre quand on lui donne des UV. Et ce sont les motoneurones. Vous voyez ici, c'est une souris sauvage, donc normale. Les motoneurones avec ici les nerfs qui partent de la moelle épinière. Et voici maintenant d'autres mutants dont la protéine a été colorée en jaune, en rouge ou en bleu. Et en fait, il s'agit de trois pathologies liées au développement motoneuronal. Peu importe les noms. Vous voyez qu'avec ce système-là, on est capable de mesurer parfaitement les anomalies. Ici, manifestement, il y a une anomalie au niveau des et ici au niveau des embranchements, ce métas au niveau des nerfs. Donc là encore, hein, ce sont des souris transgéniques qui ont été réalisées dans le but de comprendre un développement et éventuellement d'envisager une pathologie. On n'en est pas encore là en ce qui concerne le moton neuronal. Enfin, dernier exemple, ça concerne le gène OBOB qui code pour la leptine. En 1994, un groupe américain a eu une idée que je trouve géniale. On sait qu'il existe des souris qui sont naturellement obèses. Ça s'appelle les souris OBOB ou DBDB. Bon. Ces souris ont été sélectionnées se sont développées spontanément. Ils ont pris une souris normale et ils ont fait une expérience de parabiose. C'est-à-dire que la circulation sanguine a été détournée et les deux souris, la souris normale et la souris OBOB, ont été branchés sur la même circulation. C'est pas très simple. Mais en attendant, la souris obèse est devenue maigre. Les Américains se sont dit, ça veut dire qu'il y a un produit, une protéine, une hormone, qui est libérée dans le sang, qui va agir sur l'autre souris, et donc, ça signifie que l'autre souris est déficiente en cette protéine. Ils ont fait la marche sur le chromosome, ils ont identifié le gène qu'ils ont appelé OBOB, parce que la souris s'appelle OBOB, et la protéine a été appelée leptine, leptos, c'est graisse en grec. Et voici la souris OBOB moins moins, c'est-à-dire que la souris, le gène a été cassé. Et oui, une fois que vous avez quelque chose, qui vous dit que ce que vous avez démontré, vous avez montré vrai? Eh bien, le gène a été cassé, et voici la souris OB moins moins. Ces deux souris sont sœurs. C'est-à-dire qu'elles proviennent de la même fratrie. Seulement, une est sauvage, et l'autre est totalement homozygote pour la pathologie. Les deux parents étaient hétérozygotes. Il existe des cas d'obésité morbide et des pathologies rarissimes où le gène OBOB a été muté chez l'homme. Voilà. Regardez cet enfant. Il y a une mutation du gène OBOB. Je pense que moi, je me sens enveloppé, mais là, le phénotype est assez drastique. Après que le gène ait été identifié, des analyses ont été faites, des études, tout ce que vous voulez, cet enfant a été traité par la leptine qui avait identifié et dont le travail provenait directement de cette souris OBOB, des travaux sur cette souris. Et voici le résultat après quelques mois de traitement. Bon, on sent qu'il y a encore du potentiel, néanmoins, je pense qu'il est très clair que l'obésité a été parfaitement réduite chez cet enfant. Et s'il n'y avait pas eu tous les travaux, et s'il n'y avait pas eu toutes les données de manipulation de la vie, de ce que vous voulez, ben, ça va vous vérifier, jamais la leptine n'aurait été identifiée dans ce cas. Alors, au final, ce que je vous ai montré, c'est quoi? C'est que, à partir d'une pathologie humaine, l'idée, c'est d'obtenir un ou des traitements. Et pendant des années, eh bien, à partir de la pathologie, on identifie la protéine qui était anormale. De la protéine, on retrouvait le gène. On développait un modèle animal afin de comprendre cette pathologie et éventuellement de développer un traitement. Alors ça, c'est très bien, mais maintenant, on a d'autres questions. Le séquençage du génome, des génomes, a été réalisé. Et maintenant, on se retrouve devant un cas inverse. On a tout un tas de gènes dont on ne connaît pas la fonction, ces gènes codant évidemment des protéines, et on se dit, mais comment est-ce que ces protéines fonctionnent et pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent comme ça et quel est leur rôle? Eh bien, l'idée, c'est de développer des modèles animaux pathologiques en cassant le gène, soit en faisant des animaux transgéniques, c'est-à-dire en surexprimant le gène, et essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'animal a développé une pathologie? Et souvent, il arrive que ce que l'on observe chez l'animal, c'est ce qu'on observe aussi dans certaines pathologies humaines. Ainsi, il est possible de retourner à la pathologie humaine et d'essayer de développer des traitements. Donc vous voyez que là on est dans une problématique totalement inverse. On avait une protéine, on sait ce que ça donne. Dans l'autre cas, si on a une protéine, on ne sait pas du tout ce que ça donne. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant, puisque je travaille depuis maintenant un certain nombre d'années sur une protéine qui s'appelle LXR, Liver X Receptor, peu importe le nom. Ça peut être tartampion, ça serait pareil. Cette protéine, on ne savait pas du tout quel était son rôle. Ce que l'on a fait, c'est que on a créé un chaos. Le gène a été enlevé dans la souris. Et on s'est dit, est-ce que la souris développe une anomalie? Et la catastrophe, c'était qu'elle ne développait pas de maladie. On était déçus, 2 années de travaux pour rien, réduit à néant. Et puis en parallèle, j'ai vu une collègue américaine qui travaillait sur cette protéine et qui s'est aperçue que c'était activé par le cholestérol et les oxystérols, donc des produits alimentaires. Alors on a une idée de se dire, bah, on va prendre la souris, on va lui donner 100 fois la dose, pas 100 fois la dose, hein, de cholestérol, saturé un homme. Les souris, ça ne les tue pas parce qu'elles transforment tout le cholestérol en acide biliaire et donc ça se transforme, ça part après dans les fesses. Chez l'homme, ça ne marche pas comme ça, hélas. Mais en tout cas, on a essayé ça. On a pris les souris et on les a nourris pendant 90 jours. 90 jours, ça c'est du froid. Hein. 90 jours avec un régime riche en cholestérol. Et ce que l'on observe chez les souris sauvages, c'est pas grand-chose. On voit une à peine une petite coloration. On passe d'un rouge foncé à un rouge clair. Ça, c'est une. Vous voyez ici une coupéosine hématoxylienne, c'est-à-dire ce que vous trouvez sur vos coupes, hein, de façon très classique. Et un petit peu, ça c'est une coloration qui met en évidence le gras. Normalement c'est en rouge. Vous voyez une toute petite accumulation du rouge. Et on a fait la même chose avec des souris qui avaient été déficientes pour LXR. Et voici le résultat. Et oui, elles ont fait quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Oui d'accord, mais c'est quoi ça? Oui, c'est un foie gras. C'est exactement. C'est la définition d'un foie gras. Une stéatose hépatique. Au bout d'une semaine, 30 jours, 90 jours, regardez ici le foie qui a été. C'est les mêmes souris. Enfin, c'est pas les mêmes souris, mais elles ont été nourries en parallèle. Hein. Vous voyez ici le foie. Et regardez ici l'accumulation d'huile rouge qui marque les lipides neutres. Tout ça, c'est du cholestérol. Ainsi, on a mis en évidence que eh bien, le récepteur LXR était capable de complètement abolir la régulation du cholestérol chez ces animaux. À partir de là, évidemment, il était mis en évidence que suggérer que peut-être ça régulait le taux de lipides dans le corps. Ok, mais il a fallu aller plus loin. Le cholestérol, il y a deux origines. Origine endogène, on synthétise tous du cholestérol. Certains plus que d'autres, peut-être que ici certains sont sous statine ou sous lipentine, saumon et tout ce que vous voulez. Mais on l'absorbe aussi par l'aliment. Ce cholestérol se trouve en équilibre avec une forme qui s'appelle des oxystérols. Et normalement, lorsqu'il y a après le repas une augmentation de cholestérol dans la circulation générale et donc après dans les cellules, que se passe-t-il? Eh bien, ce cholestérol va se fixer sur les récepteurs LXR, la protéine, et l'activation va entraîner une disparition du cholestérol à l'intérieur des cellules, puisque le cholestérol retourne au foie où il est éliminé. Voilà comment ça se passe dans la vraie vie. Comment est-ce qu'on a pu mettre en évidence ce genre de choses? Eh bien, on a pu mettre en évidence ceci parce que les souris étaient déficientes en LXR, qu'on les a rendues déficientes en LXR. Cette question est fondamentale parce que vous savez que depuis quelques temps, depuis maintenant 20 ans, 30 ans, alors c'était depuis longtemps aux États-Unis, mais ça arrive en France, il y a des modifications du comportement alimentaire. Riche en graisse, riche en sucre, le Western Diet, le régime cafétéria, que l'on donne à manger à nos souris. Voilà, regardez ici. Non seulement la qualité, mais la quantité. Et ainsi, si on fait l'association entre surpoids et obésité, on voit qu'en 1997, c'était 37%, et qu'en 2003, c'est 49%. Ce sont des chiffres de la France, je ne parle pas des États-Unis. déséquilibre dans le trouble alimentaire, plutôt ces troubles alimentaires entraînent des pathologies. Maladie cardiovasculaire, diabète de type 2, et puis des anomalies dans la fonction de reproduction, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, également dans certains cancers. On est en train de travailler à l'heure actuelle en utilisant ces modèles de souris sur le cancer de la prostate, et on montre clairement que lorsque les souris sont nourries pendant 6 semaines avec le régime cafétéria, riche en graisse, sans cholestérol, les souris augmentent leur multiplication cellulaire anormale au niveau de la prostate, démontrant clairement le lien qui existe entre l'alimentation et le cancer de la prostate. Ça entraîne aussi des troubles de l'accouchement. Lorsque vous discutez un peu avec des gynécologues, ils vous diront que de plus en plus, ces gynéco-obstétriciens sont obligés de déclencher l'accouchement. Pourquoi ? Parce qu'ils se trouvent de plus en plus devant des femmes en surpoids et des difficultés de contraction, puisque ça contracte de plus en plus mal. Et les troubles de la fertilité également, je vais y venir. Alors d'abord, la MISBA. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à travailler sur LXR et MISBA alors qu'on savait que c'était le cholestérol, etc. Eh bien, de temps en temps, on trouvait l'animalerie, des souris, complètement bloquées du dos, qu'il fallait sacrifier, parce qu'évidemment, elles souffraient. Donc, on les euthanasiait à la lotade, elles s'endormaient. On disséquait pour voir ce qui se passait. Et voici ce que l'on obtenait. À savoir, les cils, la corne utérine, ça c'est un utérus, ça c'est un deuxième utérus. Chez la souris, la femme a un seul utérus, hein, qui résulte de la fusion des deux cornes. Chez la souris, il y a deux cornes utérines avec un seul col utérin. Et ça, c'était une souris qui avait mis bas 15 jours avant. Et ce que l'on peut voir, c'est que, vous voyez ici un fœtus, deux fœtus, trois fœtus, il y a des fœtus qui sont restés coincés chez la souris. Il n'y a pas eu d'expulsion. Elle est morte d'une septicémie, puisqu'il y a eu une petite résorption, une deuxième résorption, il y a eu une inflammation, et elle s'est sentie mal, on a été obligé de l'euthanasier. Dans quelques cas, voilà ce que l'on obtenait. Vous voyez ici la souris, reine comme la justice, avec le petit coincé en position de mise bas. Donc, très clairement, les LXR étaient impliqués dans la physiologie de l'utérus et probablement dans les contractions de l'utérus, puisque cette souris est morte en mettant bas. Alors, pour faire l'histoire courte, 4 années de recherche. On sait maintenant que ça, c'est la coupe semi-fine. Ça, c'est un myocyte. Alors, l'utérus, c'est un muscle lisse. Voilà le myocyte ici. Regardez, le noyau, c'est très joli. On voit les cuillères encore. Voici le cytoplasme. Et voici le myocyte d'une souris LXR-. Vous avez toujours la membrane, le noyau, et ici, les lipides qui sont accumulés. En fait, chez ces souris, il y a une anomalie dans l'expulsion des lipides. Alors, comment est-ce qu'on arrive à faire le lien entre LXR et lipides? Eh bien, là encore, hein, normalement, toute cellule est capable d'expulser le cholestérol dès qu'il y a une augmentation. Ça passe par un canal, peu importe le nom. Lorsqu'on mesure le même canal chez les souris LXR-, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Le fait qu'il y en ait beaucoup moins va ralentir la sortie du cholestérol et, exactement, le mot a été dit, stockage sous forme d'ester de cholestérol dans la cellule. Le cholestérol, c'est une maladie, c'est une molécule toxique. Il faut obligatoirement qu'il soit fixé sous forme d'ester de cholestérol, sinon il y a des cristaux qui se forment et la cellule éclate. Donc voilà pourquoi c'est stocké sous forme d'ester de cholestérol. Bon, l'utérus, ça sert aussi à une chose, ça accueille évidemment la gestation, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des contractions qui se déclenchent. Mais on a pris des utérus de souris sauvages et des utérus de souris moins, et on les a reliés par 2 capteurs électroniques, et normalement l'utérus se contracte spontanément, on le voit à l'œil nu, hein. Et on mesure les contractions. Et on a mis 2 types de drogues, soit l'ocytocine, l'hormone naturelle libérée au moment de l'accouchement, soit une prostaglandine, une autre hormone. Et voici ce que l'on observe. On s'aperçoit que chez la souris sauvage, plus on met de l'hormone, et plus les niveaux de contraction augmentent, ce qui est normal. Une femme qui est en travail, on lui donne souvent de l'ocytocine et des prostaglandines pour augmenter les taux de contraction. Et voici ce qui se passe chez les souris élixir grand nombre. L'utérus contracte beaucoup moins. Ainsi, on a pu mettre en évidence que eh bien, ces souris avaient des altérations dans la contraction de l'utérus et que ceci était lié à une augmentation du taux de lipides. C'était la première fois que le rapport entre lipides et contraction de l'utérus était réalisé. Une nouvelle fois, on a pu mettre en évidence ceci. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des souris transgéniques, parce qu'on a étudié les souris transgéniques. J'ouvre une parenthèse, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. On a toujours l'idée du savant fou en train de manipuler, en train de Frankenstein, du mythe et tout. Peut-être. On ne peut même pas le prendre un poil de souris sans que d'abord il y ait eu un protocole déposé auprès du comité d'éthique, dans lequel les gens du laboratoire n'y sont pas, évidemment. Donc, tout ce que je vous présente a été validé au prix du comité d'éthique avant, ce qui est tout à fait normal, évidemment. Reproduction chez le mâle, maintenant. L'avantage du mâle, c'est que on peut mesurer facilement son pouvoir et ou sa capacité à se reproduire. Vous prenez trois femelles dans une cage, vous prenez un mâle qui a plus vu de femelles depuis longtemps, vous le mettez dans la cage, et habituellement, c'est la fiesta. Et le lendemain, on mesure les bouchons vaginaux. Chez la femelle, on soulève la queue de la femelle, et à l'entrée du vagin, il y a un bouchon qui est dur, qui empêche toute relation sexuelle supplémentaire. C'est tout simplement les glandes coagulantes chez le mâle qui a libéré des produits, et non. Alors ça indique les rapports sexuels qu'il y a eu pendant la nuit, et je précise des rapports efficaces. On peut... Eh oui, mais c'est important. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu des rapports que forcément il y a la mise bas, et surtout qu'il y a des petits. Là aussi, la souris, l'avantage, c'est qu'on sait exactement qu'à partir du moment où il y a un bouchon vaginal, la souris met bas 19,2 jours plus tard. Souris qui sont depuis 60 ans, 70 ans, 80 ans sélectionnés en laboratoire, on veut dire qu'on connaît parfaitement leur physiologie. Eh bien, on mesure le nombre de mises bas à 19,2 jours, entre 19 et 20 jours. Voilà. En blanc, c'est les souris sauvages. Vous voyez qu'un mâle a en moyenne 8 à 10 rapports en fonction du nombre de femelles, et ainsi de suite. Voilà. Pas en une soirée, je précise. Et habituellement, la souris mais bas dans quasiment 100% des cas. Des fois aussi on fait une erreur, on ne sait pas s'il y a un bouchon et pas de bouchon. Et la moyenne c'est entre 7 et 8 petits, et que ce soit des mâles inférieurs à 12 mois ou des mâles âgés de 12 mois. On a gardé une souris qu'on appelait Willy parce qu'on pensait le sauver, et hélas on a eu besoin de ses testicules, donc la femme on va en sauver. Il est mort à 28 mois. À 28 mois, cette souris, ce mâle, était encore capable de se reproduire. Donc vous voyez que 12 mois, c'est pas vieux pour une souris. Maintenant, regardez les mêmes résultats chez la souris LXR alpha beta moins. Et très clairement, vous voyez qu'il y a une diminution du nombre de bouchons vaginaux. Alors mesurer la libido chez la souris, il y a des tests. Nous, on l'a pas fait, mais c'est possible. En tout cas, il y a une diminution du nombre de rapports efficace, du nombre de mises bas, parce que c'est pas parce qu'il y a eu des rapports, vous avez vu, il n'y a pas de mises bas, c'est-à-dire que la souris est capable d'avoir un rapport, d'éjaculer, mais il n'y a pas de petit. D'abord, il n'y a pas de mises bas et il n'y a plus de petit. Alors, évidemment, on est allé étudier tout ça. Alors, on a vu que la barre était entre 5 et 7 mois, je ne rentre pas dans les détails. Non, regardez l'état des spermatozoïdes. Alors, vous savez que le spermatozoïde, hein, c'est le gamète mâle. Regardez ici, ça, c'est un gamète de souris. Alors, il est un peu arqué chez la souris. Ben, bon, le spermatozoïde, c'est un ballon avec une ficelle. Hein, au fond des dos, vous voyez un peu le spermatozoïde. Regardez dans le double chaos ce qui se passe. Regardez. Vous voyez ici les têtes de spermatozoïdes Et vous voyez ici les flagelles. Alors il a perdu la tête. Et surtout, il y a un angle. Donc vous imaginez le spermatozoïde qui normalement tourne comme ça. Si évidemment on lui met une ondulation, le spermatozoïde va tourner tout le temps dans le même sens. Et il est hors de question qu'il devienne fertile. C'est exactement ce qui se passe. Donc ça, c'était une des raisons expliquant pourquoi la souris était stérile. Alors, je veux dire, quel est le lien avec les lipides? Eh oui, mais on sait maintenant que dans la tête de lipididyme, qui est juste au-dessus du testicule, le spermatozoïde est libéré par le testicule, il va descendre dans la tête de lipididyme, il va entrer dans le canal déférent et il est éjaculé. Il y a des transferts de lipides et il y a des inversions entre cholestérol et phospholipides. Voilà pourquoi l'alimentation est indispensable pour une bonne reproduction. C'est vrai chez la souris, c'est sans doute vrai chez l'homme, mais on n'arrive pas à produire de tels déséquilibres, évidemment. On a regardé l'anatomie des testicules, et là on a trouvé d'autres. Regardez ici. Ça, c'est un testicule. On voit ici un joli tubule. Ici, c'est à 12 mois, mais ici, les spermatozoïdes, les cellules de Leydig. On ne voit pas les cellules de Sertoli, on ne peut pas les imaginer. Ici, à 2 mois et demi, testicule à 2 mois et demi. Regardez le testicule à 12 mois. On ne reconnaît plus rien. On voit des signes de cristaux de cholestérol, des signes de nécrose et ici des signes de calcification. Le testicule est totalement déstructuré. Pourquoi il est déstructuré? Eh bien parce qu'il y a une attaque par les cellules de Sertoli du fait de l'accumulation de lipides ici au niveau des spermatides et des spermatocytes. Au final, eh bien, en 97, j'exagère, 94, NXR est identifié. Pendant 3 ans, on ne sait pas du tout ce que c'est. En 98, on met en évidence que c'était lié, justement, à la quantité de cholestérol au niveau du foie. Depuis, on met en évidence que l'NXR est impliqué dans l'étabolisme énergétique. Les molécules sont des parfaites cibles pour l'hypocholestérolémie. Il existe des modèles de souris hétérogéniques. Vous prenez une souris, vous lui donnez du cholestérol, au bout d'une semaine, les artères sont totalement bouchées. Vous leur donnez à ces souris un liquide non métabolisable du NXR, et une semaine après, les souris ont des artères de jeunes filles prépubères. Il n'y a plus rien. Tout le cholestérol a disparu. Dire c'est formidable, pourquoi on n'en prend pas? Le seul problème, c'est que ça augmente les taux de triglycérides circulants et qu'à l'heure actuelle, c'est inacceptable comme traitement. On ne peut pas d'un côté faire chuter le cholestérol et d'autre côté augmenter même légèrement les triglycérides. Donc les boîtes pharmaceutiques s'excitent pour essayer de trouver de nouvelles molécules. Ce sont des molécules aussi hypoglycémiantes. Toujours avec les KO, on a pu mettre en évidence, là encore, que ces souris étaient impliquées dans l'immunité et le rôle anti-inflammatoire, notamment au niveau de la peau, puisque les souris ont une anomalie au niveau des kératinocytes. Il est probable que dans l'avenir très proche, des premiers tests soient réalisés pour la maladie d'Alzheimer. Il existe un modèle de pathologie d'Alzheimer qui réexprime une protéine qui s'appelle APP. Lorsque vous traitez les souris développant la maladie d'Alzheimer avec un agoniste de NXR, vous avez des signes anatomiques d'Alzheimer qui disparaissent totalement chez ces souris. Ce sont des signes anatomiques. On n'a pas fait de test, c'est un peu compliqué pour calculer l'intelligence de la souris. Enfin, et ça c'est ce que nous on a fait sur Clermont-Ferrand, on a vu que les NXR étaient impliqués dans les organes stéroïdogènes et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, ok, on a des souris KO, on a pu mettre en évidence des cibles, on a pu mettre en évidence des phénotypes, on a pu comprendre certaines pathologies humaines. Donc, pourquoi ne pas se servir de ces molécules comme des cibles thérapeutiques? D'abord, il y a un premier problème. C'est que les NXR n'ont pas livré tous leurs secrets. Hélas. Tant mieux pour nous, parce qu'on a encore du grain à moudre. Je dirais hélas pour les pathologies. Imaginez que, vers 45-50 ans, c'est là où il y a des risques cardiovasculaires importants. On va donner à quelqu'un, une femme, un homme, des molécules qui vont activer les NXR. Le taux de cholestérol va diminuer, très bien. Le Le seul problème, c'est que ça augmente la stéroïdogénèse. Alors pour la libido, c'est peut-être parfait. Sauf que vers 40-50 ans, c'est là où les risques de cancer du sein chez la femme augmentent et le cancer de la prostate chez l'homme. Alors sous prétexte de guérir ou de sauver ou de ce que vous voulez, soigner quelqu'un ayant une athérosclérose, vous allez lui donner un cancer de la prostate ou un cancer du sein. Je ne sais pas si le risque en vaut forcément la chandelle, évidemment dans ce cas-là. De plus, il faut que ça réponde à tout un tas de critères. Alors ça, c'est un schéma qui vient de chez GlaxoSmithKline, une des plus grandes boîtes pharmaceutiques au monde. Est-ce qu'il y a un besoin médical? Oui, il y a un besoin médical, clairement. On a vu que l'INXR était impliqué dans tout un tas de pathologies, donc oui, il y a un besoin médical. Est-ce qu'on a des cibles? Est-ce qu'on a des opportunités biologiques? Bien sûr, on a tout ça, pour l'instant. Est-ce qu'il y a une diversité chimique des molécules? Il y a même des molécules naturelles qui activent l'INXR. Dans la vallée de Chaux-de-Fou, par exemple, vous avez une mousse, dont j'ai oublié le nom, je ne suis pas du tout botaniste, c'est une catastrophe, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et cette mousse est riche en ligands d'INXR. Alors, c'est pas la peine d'essayer de manger de l'herbe, de goûter pour ajouter le poison. Il faut une extraction méthanolique. Donc, c'est pas possible, n'est pas capable de le faire, en tout cas, de le manger. Mais il y a des molécules naturelles capables d'activer l'INXR. Ensuite, si on s'intéresse, est-ce qu'il existe des tests? Oui. Est-ce qu'il existe des développements précliniques? On n'en est pas encore là, mais bientôt, hein, pour la maladie d'Alzheimer. Et enfin, est-ce qu'il existe une commercialisation? Ben là, on n'est pas encore. Hein. Et c'est là la question à l'heure actuelle, c'est que ces souris seront sans doute utilisées pour justement tous ces tests. Et ces souris, d'ailleurs, ont été confiées à une boîte pharmaceutique qui fait des tests là-dessus pour essayer de trouver des clients. Nous aussi, on cherche avec une autre boîte pharmaceutique. Alors, problème d'éthique. Les manipulations de la vie. Est-ce qu'on a le droit de tout faire? Le droit, on a le droit. Est-ce que c'est moralement acceptable? Ça, je ne sais pas si c'est moralement acceptable. Ce n'est pas moi tout seul qui peux le dire. C'est que en commission d'éthique que l'on peut définir ce qui est moralement acceptable. Et puis, vous savez, la morale, hein, ce qui est moral au XVIIIe siècle et pas forcément au XXe siècle. Il y a un philosophe parmi nous, j'étais nul en philosophie, mon prof était très bon. Il ne m'a pas donné la fibre nécessaire pour apprécier, je pense, la philosophie, c'est sans doute ça. Mais... En tout cas, ce que nous on a réussi à faire, c'est qu'en enlevant les LXR, les souris, semble-t-il, ont des signes de vieillissement accéléré.
Alors évidemment, je pense toujours
à un vieillissement accéléré en se disant... À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce qu'on peut activer, alors j'ai mis l'élixir, mais c'est valable pour n'importe quelle molécule, est-ce qu'on peut activer et revenir à la source de l'éternelle jeunesse? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est une nouvelle fois, je pense que le message il est là. Les manipulations de la vie sont quelque chose de délicat. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut surveiller. Mais je suis persuadé que ce n'est pas en cassant avant qu'on pourra discuter après. En même temps, il y a des lobbies. On a vu récemment, je pense que beaucoup avaient vu sur la 5, c'était sur Arte, le truc sur Monsanto. Bon. Tout ce qui est dit est vrai. Hein. On ne pense pas que c'est vrai. Bon, ben voilà. Il y a des abus. Est-ce pour autant qu'on doit tout interdire? Surtout quand on sait qu'il y a potentiellement des risques des chances de thérapeutique humaine. Bon, ça discute. Pour finir, il y a quelque chose aussi qu'il faut que vous ayez bien conscience, c'est que la recherche, on ne la fait pas tout seul. C'est que s'il n'y a pas des collaborateurs, que ce soit... Alors, il y a mon maître qui est là, à Dallas. Il reste 3 ans à Dallas, au Texas. Il vient d'ailleurs à la fin du mois. C'est chez lui qu'ont été faits les chaos, c'est ici maintenant que se font les analyses. Mais c'est vraiment parce qu'il y a des réseaux, que ce soit des réseaux locaux. Regardez ici, vous avez l'INRA, vous avez l'hôpital, vous avez le centre, ici, le centre de biologie du développement de la reproduction. Vous avez une entreprise locale qui est GreenTech, et Laurent Rios avec qui on collabore pour essayer de développer de nouvelles molécules. Donc, c'est une collaboration. Alors, l'État est généreux avec nous, surtout que c'est enregistré, je dois le dire, mais heureusement aussi qu'il y a des sponsors, hein, que ce soit les universités, bien évidemment, l'université de Blaise-Pascal, l'université d'Auvergne, l'unité mixte sur les deux universités, hein, que ce soit l'INSERM, que ce soit le CNRS, que ce soit le conseil général, régional, et ainsi de suite. Et ça, ce sont les gars qui travaillent avec moi. Il y a des étudiants. Bon, ils ont des têtes d'étudiants. Il y a des maîtres de compte, il y a des techniciens. Donc c'est vraiment un travail, je crois que c'est un travail d'équipe. En même temps, la photo a été prise de façon humoristique. Mais c'est un travail d'équipe. Voilà, que dire de plus? Moi, je suis prêt à répondre aux questions. Si jamais vous voulez passer un jour au CESO et venir visiter le laboratoire, rien ne vous empêche de passer un petit coup de mail et de dire, voilà, ce serait sympa, on aimerait voir un peu ce que vous faites. On va vous présenter, surtout si c'est la certaine qui vient, une certaine qui vient au CESO à la rentrée à la fac. Je ne fais pas ça tout de suite, hélas, hein, mais ouais, ça peut être intéressant de passer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà, prenez quelques minutes pour réfléchir.